j'étais Georges.
Le service fiction de notre programme radiophonique vous propose
à partir
de maintenant, pour un certain laps de réalité,
réalité
que nul ne maîtrisons encore réellement à l'heure actuelle,
une enquête
haletante où
tout est laissé au hasard.
Monde parallèle, une émission dans la thématique antenne que Grenouille consacre cette semaine au monde de Roré. Une création sonore, un concert acousmatique de Jonathan Pontier, Lucien Bertolina et Lionel Gasparian, à découvrir le vendredi 5 avril à la Cartonnerie, à la Friche Label de Mai, dans le cadre du festival Les Musiques.
Nous sommes en recherche de quelque chose ou de quelqu'un.
Les mondes de Roré, une œuvre de fiction, une œuvre d'imagination, mais fabriquée à partir de parcours réels, conçue avec les élèves du collège Versailles et de la Cité de la Musique, et des habitants du quartier de la Belle de Mai et de Saint-Lazare à Marseille. Un projet culturel qui se donne aussi une dimension sociale, en accueillant comme participants des bénéficiaires du RSA, dans le cadre d'un dispositif intitulé « Atelier Résidence Territoire », mis en place pour l'occasion par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Trois projets étaient concernés par ce dispositif, trois mondes parallèles, auxquels ce plateau radio procure aujourd'hui l'espace d'une réflexion commune, sur les enthousiasmes, mais aussi probablement les questionnements qui n'ont pas manqué de surgir chez leurs participants, porteurs et commanditaires. Trois mondes parallèles, trois projets, une fois un, projet musical et scénographique mené par l'artiste, DJ et chorégraphe Franck Delouise, à Aix-en-Provence, porté par Seconde Nature et Emao, que représente sur ce plateau Fabien Fabre, accompagné de Mathieu Vabre. J'espère que je ne vais pas me tromper entre vous deux au cours de ce plateau. Deuxième projet, Nous, une exposition à venir bientôt au J1 et qui conclut une résidence de création du photographe Guillaume Janot dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille. Un projet porté par les ateliers de l'image, ici présents avec Éric Gullimard. Et puis, les mondes de Roré, portés par Art en Réel, associé à Grenouille Euphonia, et incarné sur ce plateau par Lionel Gasparian, un des trois compositeurs de cette création sonore, et par Nelly Fleischer, coordinatrice de l'action culturelle. Trois projets qui s'inscrivent dans les manifestations de la capitale Marseille-Provence 2013, et plus particulièrement ses actions participatives et citoyennes, pour lesquelles on accueille sur ce plateau Pascal Raoust. Et enfin, trois projets suscités, appuyés par le CG13, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, et notamment une cellule transversale entre projets culturels, éducatifs et actions sociales, pilotée par Cédric Hardy. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, Cédric Hardy, un dispositif expérimental, expérimenté sans doute à l'occasion de la capitale culturelle, mais un dispositif initié il y a déjà quelques temps, et faisant suite, je crois, à un travail d'étude, sans concession d'ailleurs, sur la pratique artistique amateur. Cédric, peut-être quelques mots sur la genèse de ce dispositif pour le CG13 ?
Oui, alors en fait, effectivement, c'est un projet qui puise sa jeunesse, si je puis dire, dans les années passées, suite à un état des lieux assez conséquent sur l'enseignement artistique. Donc l'enseignement artistique, on entend par là, pour faire la note de bas de page, tout ce qui concerne la pratique amateur dans les écoles de musique, de danse, de théâtre et d'art plastique et visuel, que ce soit dans le secteur public ou associatif. Donc le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a engagé une étude, un état des lieux, comme je viens de le dire, en 2008. Donc il a fallu du temps pour faire cette étude, puisqu'elle était assez conséquente. Je crois que on fait partie des rares départements à avoir produit un travail aussi précis, sans non plus se valoriser trop. Du coup, un certain nombre de constats sont montés dans l'état des lieux, notamment, mais ça c'est le constat, comme on en a déjà parlé ensemble, qui est fait dans bon nombre de départements, à savoir l'innovation pédagogique dans la pratique amateur, à savoir que les amateurs, en règle générale, sont peu confrontés à des artistes vivants.
Ils sont plutôt confrontés à des artistes morts.
Non, surtout à des pédagogues en règle générale qui sont rarement artistes ou peu en tout cas dans le public. La dimension de pratique collective pour la musique qui est finalement peu développée. Et donc voilà, toute cette dimension créative qui peine encore à prendre ses marques en fait dans les lieux d'enseignement artistique. La problématique de l'élargissement des publics de cet enseignement artistique qui est cher au Conseil Général des Bouches-du-Rhône évidemment. Et aussi...
Cher combien ?
Cher combien, alors ça, on pourra en parler après. sur la notion, enfin, de mettre en réseau tous ces équipements entre eux, et ainsi qu'avec les ressources sur les territoires, à savoir les écoles, les collèges, les structures sociales, et évidemment les opérateurs culturels et les artistes. Voilà. Donc trois constats qu'on a pu cerner avec cet état des lieux, qui nous ont aidés avec l'appui de professionnels, que ce soit du spectacle, des arts, de la pédagogie, à produire finalement un programme expérimental intitulé Atelier Résidence Territoire.
Un projet qui a une particularité et même une grande innovation pour le Conseil Général, c'est que c'est un projet très transversal et qu'il fait travailler ensemble des cellules qui sont plutôt consacrées aux dispositifs d'insertion, d'autres à des dispositifs d'éducation et enfin d'autres à des dispositifs culturels. C'est la première fois que des services différents du Conseil Général travaillaient ensemble de la sorte ?
C'est pas forcément la première fois, mais dans cette envergure-là, oui, je pense que c'est un projet qui fait un peu foi d'une certaine collaboration assez unique, je dirais. On a pu marier comme ça des dispositifs assez divers, donc on va dire la logique publique, la politique publique sur l'enseignement artistique pour la direction de la culture, celle de la politique éducative de la direction de l'éducation, et enfin le plan départemental de l'insertion qui encadre notamment l'allocation du RSA. Voilà.
Et avec l'intention de travailler ensemble, afin que cette cellule continue à produire des projets, ou est-ce que c'était vraiment lié à ce projet spécifique-là ?
Non, je dirais que c'est ce projet qui a impulsé la collaboration inter-service. Ça a été aussi conforté par une dynamique impulsée par le CG il y a quelques années qui s'appelle 13 ans partage. Alors 13 ans partage, c'est vraiment une mission transversale interne au Conseil Général qui vise à favoriser l'accès de tous les publics, notamment reliés aux compétences du Conseil Général, notamment les allocataires du RSA, donc favoriser leur accès à des actions culturelles exigeantes, de qualité, avec la médiation au cœur et la pratique artistique au cœur du dispositif. Voilà.
Des participants à ces trois projets aujourd'hui mis en partage, mis en parallèle sur ce plateau, des participants dont la réalité de la vie quotidienne ne les rend pas forcément toujours très perméables aux pratiques de l'art contemporain. Et pourtant, on verra que leur apport à ces projets est considérable. Peut-être un premier tour de table avec les porteurs de projets qui sont présents ici dans ce studio, sur la rencontre avec les participants de ce projet justement. Peut-être pour commencer, Nelly Fleischer.
Je ne sais pas si c'est la plus... je crois que chaque expérience est unique, là. En l'occurrence, on va l'entendre. Pour nous, elle a été un peu, elle a été un peu étrange et questionnante, la rencontre avec les publics, puisqu'elle a été toute petite au démarrage, et il a fallu s'adapter à un système qui n'était pas non plus existant jusqu'alors, puisque l'ensemble des participants adultes, en tous les cas volontaires, étaient envoyés par les référents sociaux du RSA, et sont arrivés en tout petit nombre, ce qui a été assez joli d'ailleurs parce que nous on s'attendait à des nombres beaucoup plus conséquents que ça. On avait prévu un premier atelier le lundi matin où on attendait une bonne dizaine de personnes, un autre le mardi après-midi et un autre le mercredi matin. Et bon, tout ça a été remis en question parce que une personne est venue le lundi, deux personnes sont venues le mardi et une troisième le mercredi. Et ce qui a été assez joli, c'est la façon dont les artistes, puisque chaque atelier était porté par un artiste, si j'étais Georges ayant fonctionné avec un trinôme artistique, ce qui a été joli, c'est la façon dont les artistes ont transformé la contrainte pour faire une rencontre de qualité, presque sur des rencontres de personne à personne. Et ont réussi à faire groupe avec un noyau qui est resté très fidèle pendant 3 ans, qui est constitué, puisque ces personnes sont là et vont être là. Certaines ont passé déjà quelques jours avec nous en ce début de semaine et elles seront là ce soir et vendredi à la Général. Nos mousquetaires, ils sont 4 et ils nous ont suivis pendant ces 3 ans de projet.
Alors peut-être pour suivre dans ce tour de table, Éric Gudimard, sur la rencontre avec les participants de ton projet, de ce projet qui va déboucher sur une exposition qui s'intitule « Nous, est-ce qu'ils sont arrivés par ordre dispersé ?» Comment s'est opérée la rencontre avec eux ?
Alors tout d'abord, l'exposition a déjà commencé.
Donc, vous pouvez l'admirer au J1. Nous, on a eu un public d'emblée. Effectivement relayé par les partenaires sociaux et les travailleurs sociaux qui se sont impliqués d'une manière assez fantastique dans le projet. Sur le 13-14, grâce au pôle insertion 13-14, la MDS des Flamands, des Nautiles, le centre social Lagarde, et aussi un groupe de d'amateurs qui pratiquent, j'allais dire, ça n'a rien de religieux, mais qui pratiquent déjà la photographie à la travers.
C'est-à-dire que ce public associé n'est pas arrivé tout seul, il est arrivé accompagné en quelque sorte par des structures relais.
C'est-à-dire qu'il ne serait jamais arrivé sans les structures relais. Voilà. Donc nous, on n'avait ni la capacité, ni même, je pense, la formation pour permettre cette chose-là. Il a fallu qu'on forme, entre guillemets, d'abord les travailleurs sociaux à ce que pouvait être un atelier photographique, ce qu'on pouvait y faire et surtout ce qu'on pouvait en tirer et en retirer en termes de relations humaines, d'habitudes de travail, etc., etc. Et grâce à eux, il y a eu un public qui a été relativement conséquent, qui a certes bougé, parce que le projet était long. Entre la première année et la deuxième année, il n'y a pas forcément eu les mêmes personnes. Il y a des personnes qui, et c'est tant mieux, par exemple, ont trouvé du travail, ils ne pouvaient pas venir le jeudi matin ou le mardi matin, je ne sais plus, quand on faisait l'atelier. D'autres qui étaient mutés, d'autres qui abandonnaient, c'est tout à fait normal. Et d'autres qui sont venus en cours de route par oui-dire, par bouche à oreille, etc. Donc en fait, on a eu un contact qui a été assez direct, assez rapide, et une bonne volonté, un bon engagement des participants. Donc c'est peut-être lié aussi à la photographie qui est peut-être plus accessible par ces publics-là. Tout le monde a des photographies chez soi. Donc de ce point de vue-là, ça a été d'emblée actif.
Fabien Fabre, Mathieu Vabre, à votre tour de nous indiquer comment est-ce que s'est opérée la rencontre avec les publics et peut-être est-ce que commençait à opérer plus particulièrement la rencontre avec Franck Delouise, qui n'est pas avec nous sur ce plateau ce soir, mais qui lui est identifié comme artiste. Alors la rencontre de ces mondes différents, ça s'est passé comment ?
Bien, il y a deux éléments qui me semblent importants justement pour constituer un public d'amateurs, enfin un groupe d'amateurs autour d'un projet de création participative. Tout d'abord, nous on est passé par des référents sociaux à qui on a présenté le projet. On a organisé plusieurs réunions étalées sur plusieurs mois, des réunions au cours desquelles on faisait des démonstrations et on faisait agir ces référents sociaux sur les instruments musicaux, sur des capteurs numériques. Enfin, on les a fait se mettre en situation pour qu'ils puissent être en capacité d'en parler aux personnes qu'ils accompagnent et repérer justement les bénéficiaires du RSA qui étaient le plus susceptibles d'être intéressés et de pouvoir leur en parler en l'ayant vécu un petit peu de l'intérieur sur des petits ateliers courts. Et le deuxième point, je pense, c'est la posture de Franck, la posture de l'artiste, et c'est notamment en ça qu'on est heureux d'avoir pu collaborer avec Franck. C'est-à-dire qu'il a vraiment un discours hyper motivant pour des personnes qui sont amateurs et partent de zéro en termes de connaissances musicales, et il leur a surtout laissé la parole, et il a écouté leurs paroles, écouté leur parcours, leurs expériences de vie, pour intégrer une partie de chacun d'eux dans le propos de la création même. Et donc je pense que ces deux aspects-là, à la fois travailler sur les relais et avoir une intention artistique qui laisse la place aux participants. Voilà.
Trois projets présentés ici, trois projets qui ont pour point commun évidemment d'avoir travaillé avec des bénéficiaires du RSA. Mais après tout, est-ce que dans un projet artistique, et dans un projet artistique participatif, qui fait participer activement des citoyens, est-ce qu'au fond l'intérêt premier, c'est pas de favoriser la mixité des publics ? C'est-à-dire de pas avoir un public évidemment constitué au départ, mais plutôt de faire en sorte que la rencontre se produise entre ce public et d'autres. C'est Ricardi ?
Oui, c'était le parti pris en fait de ce projet. On n'en a pas trop parlé dans la genèse, enfin plutôt technique du départ, mais c'est vrai que Atelier Résidence, l'idée c'était bien de mettre en résidence sur un territoire circonscrit, un quartier par exemple, un artiste professionnel avec l'appui d'un opérateur culturel professionnel que sont mes acolytes autour de la table, et du coup de développer tout au long de 2 ans, 3 ans, 4 ans en fait tout un projet avec un état des lieux, voilà, prendre conscience des ressources disponibles sur le territoire, mobilisables si je puis dire, les relais, qu'ils soient sociaux, éducatifs, culturels, comment on peut prendre appui dessus, comment on peut les sensibiliser, c'est ce que Fabien vient d'évoquer. Et ensuite, à la suite de cet état des lieux, pour ne pas plaquer ces grosses machines, car ce sont des grosses machines, après avoir fait cet état des lieux, lancer un projet qui puisse proposer à des gens des ateliers de pratique artistique, à des néophytes comme à des amateurs, permettant à chacun de s'impliquer justement au bon endroit. Voilà. Et ça, évidemment, on ne l'a pas précisé au démarrage, mais c'est vrai qu'Atelier Résidence, c'est quelque chose qui a vu le jour parce qu'il y avait une volonté du Conseil Général liée à une politique publique sur la transmission, sur la pratique amateur. Mais c'est évidemment parce qu'à un moment donné, la capitale européenne est apparue et qu'il y a eu ce levier avec le service action de participation citoyenne qui a pu aussi donner l'écho à une volonté de politique publique d'une institution telle que le Conseil Général.
Peut-être d'autres rebonds sur cette question de, du mélange des publics, de la mixité des publics, peut-être Nelly ou bien Eric, sur la façon dont, au fond, les participants de ces projets se sont rencontrés les uns les autres. Par exemple, pour le projet des mondes de Roré, peut-être savoir comment est-ce que les élèves se sont rencontrés avec les bénéficiaires du RSA, par exemple.
Je pense que j'aurai du mal à répondre simplement parce que le projet qu'on a proposé est parti d'abord d'une idée, avant même une idée musicale, il s'agissait d'une idée et d'un personnage, et que le croisement des publics s'est tout d'abord fait sur la dimension de l'imaginaire et de l'invention, avant même celui de la pratique. Et du coup, le croisement des publics, on l'a plutôt imaginé en fonction de l'avancement du projet de création du sujet, finalement, avant même le travail concret en tant que musicien ou en tant que personne qui écrit une histoire pour avancer là-dessus. Donc nous, on a vraiment essayé de travailler sur la construction d'un personnage en considérant que les pratiques étaient des moyens à disposition de chacun des participants pour construire ce personnage. Et finalement, la question de savoir qui joue d'un instrument, qui sait écrire ou qui sait lire ou pas, est très vite devenue tout à fait secondaire, en fait. Et elle est devenue secondaire et intégrée dans la dynamique d'invention du projet.
En tout cas, ces trois projets, tels qu'ils sont présentés là, ils ont tous une qualité, c'est la qualité de leur ambition, de leur réelle ambition culturelle. On est bien loin avec ces trois projets de la pratique de l'intervention artistique en milieu défavorisé, qui était un petit peu la base et la clé de voûte de l'action culturelle. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, les uns et les autres, qu'il y a avec cette première volée de projet dans ce méta-projet, qui est en rupture totale avec l'idée de l'action socioculturelle ? Est-ce que c'est une rupture avec le socio-cul ? Qui veut répondre ?
Ben oui, on espère que c'en est une, je l'espère en tout cas personnellement. Plutôt socioculturel, nous, au CG, on parle de socio-artistique et c'est une notion qu'on n'invente pas et on l'emprunte en le disant au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence et notamment son directeur Bernard Faucroul qui.
Alors, quelle serait la différence entre socio-artistique et socioculturel ?
Je pense que la différence, c'est la notion de co-construction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, on n'a pas plaqué un projet pour faire l'intervention. Il y a la notion de durée aussi, en plus de la co-construction. C'est-à-dire que c'est prendre en compte les desiderata, déjà d'une, des professionnels autour de la table, c'est-à-dire que ce soit les travailleurs sociaux, les profs de collège ou les profs d'enseignement artistique, voir comment on peut négocier ensemble un projet commun et le mettre en œuvre avec les publics que chacun a sous sa responsabilité. Donc je pense que la notion de co-construction, c'est ce qui va, à mon avis, définir un pan du socio-artistique. Évidemment, mettre l'artistique au cœur du projet et son exigence, je dirais que c'est le premier fondamental. Et la notion de durée aussi, parce qu'en fait, on a trop l'habitude de voir depuis 20, 30 ans, peut-être même plus, des projets one-shot, en fait, qui, pour diverses raisons, vont ça s'étendre peut-être sur une petite année et ne jamais revenir. Là, l'idée, c'était vraiment d'ancrer un projet sur la durée. Je le rappelle, lancé en 2010, on arrive en 2013, donc 4 années civiles, 3 ans sur le terrain.
Pascal Raoust, à la fois ton expérience de chargé de projet politique de la ville, Naguère, et puis plus récemment pour MP13, sortir du socio-cul, Pascal ?
Moi, je pense que la vraie innovation dans cette manière de faire les choses, c'est justement la manière de coproduire et de donner du temps au temps et de donner les moyens qui vont avec cette nécessité de temps. Dans une dynamique qui va à la fois dans la fabrication de ces... Pour moi, c'est pas des actions participatives, c'est des créations partagées à un moment donné entre du public, amateur ou même pas amateur au départ, et des artistes, et qui va jusqu'à, donc dans la durée de fabrication nécessaire à la qualité de l'œuvre qui est fabriquée, mais aussi à sa programmation aussi. Et c'est là qu'il y a un intérêt, il y a eu un intérêt, je pense, à croiser la capitale européenne de la culture avec ça, et financièrement, parce qu'on a coproduit, mais loin d'être à la hauteur de la coproduction du Conseil Général, mais on a coproduit de manière à ce que, justement, à la fois cette excellence participative et cette excellence artistique elle se concrétise dans une programmation qui est celle de la capitale européenne de la culture et qui est aussi qui a l'ambition d'être une programmation d'excellence aussi par rapport au cadre dans lequel on est.
Est-ce que les uns et les autres, vous avez vécu cette excellence comme un challenge, quelque chose à quoi il fallait arriver? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est un peu pesant cette idée d'excellence, l'excellence partout maintenant dans le domaine artistique? Eric?
Je ne sais pas si c'est pesant, mais en tout cas les participants ne l'ont pas vécu comme ça, parce que peut-être qu'on a mis en place des moyens qui ont rendu ça convivial, parce qu'il y a un facteur dans la réussite de ce genre de projet qui est essentiel, c'est l'aspect humain. Si on donne rendez-vous à des gens à 11h du matin sous la pluie pour avoir une exposition au musée d'art contemporain à Marseille, il pleut ce jour-là et que les gens viennent d'une 13-14 et qu'ils sont tous là, c'est que c'est pas pesant. C'est qu'ils découvrent des choses et que tout à coup, il se passe quelque chose, ils se déplacent à tous les sens du terme. Donc non, l'excellence, il faut... C'est une qualité de présence aussi qui est très importante. Donc nous, on avait mis en place, même si Guillaume Janot n'était pas là tout le temps, il était là tous les mois, parce que notre principe à nous, c'était de confier cette résidence à un artiste qui ne connaissait pas Marseille, pour qu'il soit un petit peu en phase de découverte également. Eh bien, tous les 15 jours, nous, on était présents, on faisait une visite d'exposition, on faisait un accompagnement sur le terrain, une initiation pour ceux qui étaient en phase d'initiation à la prise de vue, une conférence sur la photographie contemporaine, une marche. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de mixer les publics, nous, on avait avec Hendrik Sturm, et puis d'autres moments, on a organisé des marches où les gens se rencontraient à ce moment-là pour la prise de vue. Voilà, donc en fait, l'exigence, c'est pas pesant, c'est une nécessité. Sinon, on va retomber vers ce que vous dénonciez tout à l'heure.
Le socio-cu, on n'y retournera pas. Et en attendant de reprendre cette conversation dans quelques secondes, on écoute un premier extrait sonore issu des mondes de Roré.
پشت سر گذاشتن همه مشکلات و گرفتن ویزا از کشور فرانسه توانستیم به همراه خواهرم و مادرم به کشور فرانسه پرواز کنم، ولی این پرواز با همه پروازها برای ما فرق داشت و خیلی سخت و غم‌انگیز بود، چون باید از همه دلبستگی‌ها و دوستانمان و فامیل دل می‌کندیم و فکر برنگشتن دوباره به کشور ما رو غم‌انگیزتر می‌کرد و دلتنگ‌تر می‌کندیم و فکر برنگشتن دوباره به کشور ما رو غم‌انگیزتر می‌کرد و دلتنگ‌تر. ولی این پرواز با همه پروازها برای ما فرق داشت.
Alors mille pardons et je bats ma coulpe parce que ça n'est pas un extrait des Mondes de Roré qu'on découvrira vendredi à la cartonnerie, mais au contraire un extrait de Lionel.
C'était un extrait de Georges L'Enquête Infinie, une série de créations radiophoniques qui ont été faites en 2012 et qui seront éditées et présentées, donc une édition discographique à l'occasion du spectacle Les Mondes de Roré. C'était donc un extrait d'une émission radio.
Une émission radio qui se continue ici, nous sommes en direct pour cette émission Monde Parallèle autour des mondes de Roré. Alors, on reparle de ces publics, des publics fléchés, des publics indiqués donc par la production de ce dispositif, des publics qui comprennent, entre autres, des bénéficiaires du RSA, des rencontres avec des parcours de vie qui certes donnent une épaisseur à ces créations, mais en même temps, est-ce qu'il faut faire avec ou faire pour ? C'est-à-dire faire avec ces gens, tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent, ou faire pour eux, faire quelque chose qui leur soit dédié. Comment est-ce que vous avez perçu cette double possibilité les uns et les autres? Peut-être Nelly, par exemple?
Moi, j'ai beaucoup parlé, puis je parlerai encore beaucoup, mais peut-être...
Vincent et puis Fabien, alors... Vincent et Fabien...
Ils veulent pas, bon, je peux y aller sinon, mais je t'en prie.
Allez-y, qui veut?
Ils se questionnent.
Allez Fabien.
Question délicate.
Oui.
Je me lance. Faire avec, faire pour. J'ai pas envie de dire qu'il faut faire pour. Mais il y a une manière d'amener les choses qui fait que de toute façon il faut faire d'une certaine manière, c'est-à-dire prendre les gens qui participent de là où ils sont et tels qu'ils sont, et leur proposer une vision artistique qui ne soit suffisamment précise pour leur donner du grain à moudre et leur permettre de s'exprimer, mais pas trop fermé justement pour qu'ils y prennent leur place. Ensuite Franck a décidé justement faire avec et faire pour. Je trouve que c'est vraiment limitant comme comme façon de
dire. Ah ben on peut en inventer encore d'autres.
Pas, en parlant, j'arrive pas à trouver. Mais en tout cas, il y a une présence de fourmis au quotidien pour aller discuter de manière quasi individuelle avec chaque participant, le raccrocher au projet, essayer de voir où il a envie d'aller. Franck doit en faire la synthèse, mais en même temps apporter sa propre pratique et sa propre vision artistique. Je sais pas, dans le cadre d'une résidence où on place plusieurs artistes au sein d'une même pièce pendant plusieurs semaines pour travailler, on se pose pas la question si on fait avec et pour eux. Ils font ensemble et...
Faire ensemble, alors l'alternative pour toi, ce serait plutôt faire ensemble. Ouais, voilà. Peut-être... Pascal, pardon.
Ouais,
Pascal,
moi, je pense que la bonne question par rapport à ça, et puis c'est une question en général, c'est comment ne pas faire sans. C'est plutôt ça, moi, je pense que c'est ça le vrai sujet et la vraie réponse que, sans doute, cette manière de coproduire les choses a donné. C'est-à-dire comment ne pas faire sans. Comment ne pas faire sans, c'est la question qu'on a tous les jours avec la capitale européenne de la culture en se levant, c'est-à-dire certains l'ont tous les jours en se levant, de dire comment on ne fait pas sans les gens, les acteurs culturels, les acteurs sociaux, et puis surtout les habitants, et les habitants qui habitent dans certains territoires, et qui... voilà, je pense que la vraie question, elle est là, et la tentative de réponse qui fonctionne, c'est un peu cette manière de coproduire les choses dans la durée.
Mais concrètement, du point de vue de l'artiste, Lionel Casparian, est-ce que, en travaillant avec ces publics, est-ce que tu avais l'impression des fois de devoir aménager un petit peu ta pratique artistique habituelle, parce qu'il s'agissait de gens qui ne connaissaient pas, par exemple, la musique acousmatique? Donc la question du faire avec, elle se pose quand même un peu, quelque part.
Il est évident que la dimension participative sur un projet de ce type nécessite un déplacement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre en travail comme on le fait en tant que compositeur pour une œuvre en solitaire, entre guillemets. Là, il y a une réelle nécessité à retrouver les gens, à se retourner vers les personnes qui sont présentes dans l'espace-temps que l'on partage avec eux autour d'un projet, pour repartir de là et aller vers la réalisation de ce projet. C'est une dynamique qui nécessite un mouvement personnel, et c'est un mouvement personnel que je qualifierais plutôt de déplacement vers les autres. C'est un retour vers le normal, le quotidien. Quand je dis normal, je pense au quotidien, c'est-à-dire les petits gestes du quotidien et les calendriers du quotidien qui viennent s'agencer autour d'un projet qui va amener vers une réalisation artistique.
On continue dans un instant cette conversation autour de comment est-ce que ça questionne la pratique artistique, le fait de réaliser ce type de projet. Mais tout d'abord, on écoute un son qu'a apporté Eric Gudimard avant d'en discuter avec lui.
Oh, Karima, ça te fait penser quoi, ça?
Une racine.
Ouais, racine, mais... Faut pas dire des bêtises,
mais
c'est
oui,
de l'art,
attends,
ça.
Mais oui, attends, justement, de l'art, de l'imagination, oui. Imagine.
Ce sont des photos prises par les habitants du 13e et 14e arrondissement, à la fois des amateurs en photographie, des gens en difficulté, qu'on pratique ou non de la photographie. Et depuis un an et demi, avec les ateliers de l'image et un artiste, Guillaume Janot, ils conduisent ensemble des ateliers photos. Ils ont pris plein de photos qui sont toutes là. Et Guillaume Janot, avec tous les participants, va sélectionner des images pour une exposition au J1, aux ateliers du Large, au mois de mars à venir. Et là, c'est le travail qui commence.
De sélection ?
De sélection.
On a fait une traversée vers Sadi Carnot.
Voilà. C'est la place de la Juliette. Là, c'est le resto. Là, c'est un bâtiment rénové. C'est pas mal d'ailleurs.
Voilà, tu as des petits parcours bucoliques, des petites...
Voilà, tu as fait une petite composition de
mimosa. Non, c'est pas moi.
D'accord.
Je regarde, je fais comme toi, je constate. Voilà, celle-là, si tu veux, avec. Après, tu as une petite composition printanière, bucolique.
Éric Gudimard, on écoutait, j'imagine, un extrait d'un atelier.
Oui, tout à fait, avec Sébastien Lebré qui a parlé un peu pour expliquer ce qui se passait, qui était le référent qui a suivi tout le projet sur le pôle d'insertion 13-14. Des participants, et à la fin Guillaume Jeannot qui est juste un petit peu intervenu. Donc c'est le cœur du travail, l'atelier. Moi, je voudrais juste intervenir parce que tout à l'heure, ça m'a un peu énervé de dire on fait pour, on fait avec, on fait contre. Voilà, effectivement, les gens qui sont au RSA, ce n'est pas des gens qui sont spécialement différents des autres. Quoi. Effectivement, il y en a certains qu'on accompagne individuellement, comme l'a dit quelqu'un, mais ils sont en attente des mêmes choses que les autres. On nous l'a bien fait comprendre quand on a commencé le projet, parfois des difficultés telles. Mais s'insérer dans un projet comme ça, ça leur a permis aussi de sortir de ces difficultés et parfois de les résoudre parce qu'il y avait une ouverture qui s'était créée. Quoi. Donc,
Il ne s'agit absolument pas de stigmatiser évidemment les bénéficiaires du RSA, mais de dire que ce sont des gens qui ont une pratique amateur, qui ne sont pas véritablement rompus à l'exercice qui est de porter une création et que ça questionne forcément les artistes qui portent ces créations.
Il y a dans les quartiers sud des tas de gens qui n'ont pas de problèmes financiers, qui sont encore moins avertis aux pratiques artistiques. Alors effectivement, il y avait des gens qui ont mis 6 mois à faire une photographie, par exemple. D'autres qui en avaient déjà fait, parce que tout le monde en fait plus ou moins. Mais la question, elle ne se jouait pas à ce niveau-là. Elle se jouait dans la chose collective, qu'on a un tout petit peu entendu là. Et comment, individuellement, on produit des choses avec un collectif. D'ailleurs, c'était une question qui nous a beaucoup perturbés aux ateliers de l'image au tout début du projet, dès 2010. C'est comment faire quelque chose de collectif avec la photographie, qui est une pratique à la base individuelle.
Individuel et solitaire, peut-être Mathieu Vabre, sur cette question, comment est-ce que ça questionne finalement la pratique artistique de travailler avec un public qui est un public amateur, qui est un public qui n'est pas du tout connaisseur du type de pratique considérée, en l'occurrence musicale et chorégraphique pour le projet une fois que vous portez.
Ben, ça, comme le disait Lionel tout à l'heure, en effet, il faut se déplacer à la fois, je pense, pour l'artiste. C'est un véritable déplacement aussi dans sa pratique quotidienne et pour les acteurs culturels, parce que mine de rien, on n'est pas du tout on a oublié en tout cas cette question-là, véritable de la démocratisation, de revenir à cette question du don et du contre-don. Donc toute cette question, je pense, d'excellence, de socio-culturel, elles sont extrêmement galvaudées et ce que ça nous permet, en tout cas ces ateliers résidence territoire, c'est de réexpérimenter ça, d'avoir le temps aussi d'être dans cet échange-là et de don contre don. Et je pense que c'est la même chose à la fois pour les acteurs culturels et pour les artistes.
Éric Gudimard, je te propose qu'on aborde maintenant la question des territoires, en fait. Quels territoires sont concernés par ces actions? Est-ce qu'il y a un territoire de référence, finalement? Est-ce qu'il y a une question de géographie? Je crois que la question du territoire et de la géographie de la ville est particulièrement présente dans le projet que tu développes, ce projet photographique. Donc justement, sur cette question des territoires.
Alors c'est Guillaume Jeannot et les participants qui l'ont développé. Et nous, on l'a accompagné. C'est une question qui s'est posée à la base, parce que nous, on est intégré dans un territoire depuis 15 ans qui est au centre-ville. Et donc là, il y avait un déplacement aussi. La notion de déplacement est fondamentale, en fait, dans une expérience artistique, notamment pour les amateurs. Et il y avait un déplacement pour nous parce qu'on est allé sur un territoire qui était un tout petit peu nouveau pour nous, au niveau du 13-14, même si on avait déjà pas mal fait d'interventions dans des établissements scolaires, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, d'ailleurs. Donc le territoire, c'est la chose fondamentale, en fait, dans ce type de projet. C'est-à-dire que c'est le territoire qui fait le lien. Et là, on a expérimenté tous les problèmes qui sont liés au territoire à Marseille, le déplacement des participants, les transports en commun, le fait de payer ou pas payer, les transports en commun, d'affréter des bus, etc. Et on l'a aussi parcouru, donc, comme je vous le disais, sur plusieurs points, puisqu'il y avait un point la première année au centre-ville à La Traverse, il y avait un deuxième point au collège Renoir-Rostand, il y avait un troisième point à la MDS des Flamands, qui n'est pas très loin, certes, et un quatrième point au centre social Lagarde. À travers tout ça, on a créé des marches qui ont traversé, un peu métaphoriquement, depuis la traverse jusque dans le 13-14, en plusieurs étapes, tout le territoire de Marseille. Et ces marches ont été vraiment des révélateurs, comme nous, on l'avait pu l'expérimenter il y a une dizaine d'années avec un projet qui s'appelait La Ville Invisible. On s'était déjà rencontrés à cette époque.
Je m'en souviens.
Et ça, c'était une expérience qui, encore une fois, m'a fait plaisir, puisqu'elle a fonctionné en termes d'expérience individuelle et d'expérience collective, en commun en tout cas. Et après, l'enjeu, ça a été, comme on l'a dit tout à l'heure, de mélanger à partir de tous ces territoires, de rassembler, donc de, comme une pâte qu'on aurait un peu pétrie un peu partout et qu'on on rassemble dans une boule. Donc on s'est recentré sur le centre social Lagarde. Et là, vraiment, l'osmose, comme on a parlé tout à l'heure, a vraiment marché entre tous les différents types de personnes qui fréquentaient l'atelier.
Alors peut-être Nelly, sur cette question du territoire, est-ce que c'est l'élément fondamental ou est-ce que c'est parfois une limite ?
En l'occurrence, ça a été ni l'un ni l'autre, moi je dirais, ni l'élément fondamental ni une limite. Nous, on a décidé de jouer le projet sur là où est notre maison, quoi. On est art en réel et grenouille euphonie installée à la Friche. La Friche est un équipement culturel majeur. On a pour pratique de travailler avec les structures sociales, les établissements scolaires qui sont dans le troisième arrondissement. C'est un quartier qu'on connaît. Ce sont des quartiers, parce que c'est pas un quartier en vérité, hein, mais ce sont des quartiers qu'on connaît plutôt bien, que ce soit Saint-Mauron, la Belle de Mai ou Saint-Lazare. On a l'impression d'être chez nous. On s'est dit, on va faire les choses chez nous. C'est pas nécessairement obligatoire d'aller se mettre en difficulté
ailleurs.
Continuons de tisser là où on tisse déjà. On est allé tisser un peu plus particulièrement à Saint-Lazare pour le coup. C'était pour nous important de continuer à faire les allers-retours qu'on pratique déjà, puisqu'on va assez souvent dans le quartier et le quartier vient à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on est allé à la MPT et puis les gens de la MPT sont venus. On est allé au collège et puis le collège est venu. On est allé dans le centre d'alphabétisation et puis le centre d'alphabétisation est venu. Voilà, on était dans ces allers-retours-là, en fait.
En même temps, c'était un quartier ou des quartiers sur lesquels vous aviez l'habitude de travailler, sur lesquels vous aviez déjà des repères.
Oui, nous on fait déjà pas mal de choses. Grenouille euphonie, on fait pas mal de trucs, beaucoup d'ateliers de pratique, entre autres. Hein, donc oui, on connaît assez bien quand même les différentes structures de ce quartier. Donc on a recroisé d'ailleurs des gens avec lesquels on avait déjà travaillé. Et puis on a fait après des pures belles rencontres. Voilà, je voudrais juste saluer Myriam. Je ne sais pas si elle écoute cette émission, mais c'est une des très belles rencontres, je trouve, de ce projet. C'est une formatrice en alpha qui travaille à la DREP au boulevard national et je sais pas, on est tombé amoureux réciproquement, elle nous adore et on l'aime.
Et c'est partagé. Lionel ?
Je voulais juste préciser une particularité du projet Si j'étais Georges qui viendra un peu accompagner ce que disait Nelly. Ce projet Si j'étais Georges est porté par deux structures, un peu comme Seconde Nature et Mao, mais deux structures qui apprennent aussi à se rencontrer et à travailler ensemble à travers ce projet-là. Et de la même manière, Si j'étais Georges est un projet qui associe trois compositeurs qui ne se connaissaient pas. Et l'idée, c'était quand même qu'un projet pour lequel on a un peu de temps serve aussi à faire se rencontrer les porteurs, les compositeurs, comme les gens. Et donc les gens doivent se rencontrer et rencontrer les artistes doivent se rencontrer entre eux et rencontrer les gens, et les porteurs du projet doivent apprendre à travailler aussi ensemble. Donc la question du territoire était restée sur un territoire un peu connu, nous a permis aussi de rajouter une complexité à cet endroit-là.
Je vous propose qu'on continue cette émission en écoutant un petit bout de son, apporté cette fois-ci par Mathieu Vabre et concernant un atelier probablement en présence de Franck de Louise.
Je pense qu'à l'échelle de chaque être humain, on est dans cet acte de création. Je pense que ce qui se joue là, pour eux comme pour moi, c'est de pouvoir transformer son présent ou son passé pour un futur qui peut plus me ressembler. Ce que j'essaie de faire avec eux, c'est de leur transmettre ce goût-là de la transformation, la retransformation, de resynthétiser les choses. Et cet endroit-là, à mon avis, c'est un endroit très intéressant de l'expérimentation de la vie, parce que ça permet l'espoir de dire, si aujourd'hui ça va pas bien, je peux changer le cours des choses. Donc la reprise de confiance en soi, de mettre en marche la transformation des choses, et le travail en commun. Hein, on se dit que de pouvoir aller vers l'autre et d'échanger pour construire un gros truc ensemble, ça peut être déjà plus enrichissant. Et je pense que c'est gage d'une construction beaucoup plus... on se donne beaucoup plus de chance à travailler ensemble, je pense.
On a tous tous un rôle particulier au Skimbo. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'on a tous l'impression d'exister, d'être entendus, on met au point des choses, on a tous notre mot à dire, quoi. Et juste, c'est hyper valorisant pour tous et pour chacun. Et pour l'unité du groupe, parce qu'il en écoute quelque chose. Voilà, alors des fois, il y a des frustrations quand on a une idée et qu'elle n'est pas retenue. Mais c'est ça, c'est le secret, en fait, d'être des amateurs au sérieux dans un projet qui est sérieux, de vraie création. Donc, on a tous un rôle particulier. Et ça, c'est hyper appréciable. Quand on est dans un échec, un semi-échec professionnel et humain, c'est, voilà, c'est qu'on écoute. C'est juste une opportunité assez formidable de pouvoir justement se dire, voilà, j'existe là.
2, 3, 4 encore. Ralentis pas là.
Monde parallèle sur les 3-8, une émission spéciale et en direct autour des mondes de Roré et de ces mondes parallèles, deux autres projets dans le cadre du même dispositif. Alors Mathieu Fabre, on entendait dans le son que tu nous as apporté, quelqu'un dire changer les choses, changer les gens. Est-ce que tu as l'impression que ce projet a changé quelque chose chez ses participants et peut-être aussi chez ceux qui ont porté ces projets? Est-ce que réellement on sort d'un projet pareil comme on y est rentré ou est-ce qu'on en sort vraiment complètement changé?
Ce serait peut-être un petit peu prétentieux de dire qu'on va changer quand même la vie des gens. En tout cas, on l'entend dans la parole d'Alban, qui est une participante, donc une bénéficiaire du RSA, qui suit le projet depuis le début. Il y a en tout cas chez eux, qui était un groupe qui est véritablement un groupe moteur, alors qu'on le soupçonnait pas dès le début. On avait beaucoup de stéréotypes et de préjugés aussi, en se disant que ça allait être le groupe le plus compliqué à travailler, et on voit que c'est les plus impliqués, et que en effet il y a on peut noter chez eux une reprise de confiance en soi, en tout cas une libération de la parole dans cet espace avec Franck. Donc à petite échelle, bah oui, on agit peut-être à ce niveau-là.
Changer les choses, non, tout n'a pas changé, mais si, parfois quand même, on en sort un petit peu changé de projet pareil. Je voudrais qu'on aborde maintenant la question des liens avec les acteurs sociaux de terrain, entre le public et les artistes, une multitude d'intervenants. Alors peut-être, qu'est-ce que ça change sur le rapport entre l'institution et puis les acteurs de terrain, sur le dialogue entre l'institution et les acteurs de terrain? Cédric Hardy?
Oui, effectivement, ce qu'on peut noter avec ce type de projet, je pense, c'est qu'on sort peut-être d'une logique vulgairement de guichet à une logique de financement partagé. Et c'est-à-dire qu'on est vraiment autour de la table avec des partenaires, des partenaires associatifs, et le CG se veut être un vrai partenaire de ces associations. Et en fait, on va discuter, négocier ensemble et co-construire le projet ensemble. Et c'est ça qui me semble intéressant dans ce projet aussi. C'est cette relation que ça peut créer entre l'institution et les porteurs de projets associatifs du territoire.
Pascal Raoust, sur cette même question, cette triplette qui n'est sans doute pas infernale, mais en tout cas entre l'institution, le représentant de l'institution, le public, et puis entre les deux, toute une nuée de structures qui interviennent pour faire le lien entre.
Je reviens toujours un peu sur le même sujet, c'est... Cette proposition-là, elle permet de mettre autour de la table des gens qui ou des structures qui n'ont pas l'habitude d'être autour de la table pour partager et construire des choses ensemble. C'est-à-dire que souvent, certains opérateurs font une espèce de truc tout compris, en particulier dans la démarche artistique ou la démarche culturelle. Et certains acteurs sociaux sont un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils construisent un processus qui, pour moi, ressemble plus à une espèce de prestation de service que donne un artiste. Et puis, bon, on construit ça avec le public qui est là, etc. Là, le dispositif a obligé chacun, mais aussi les structures culturelles, et les structures institutionnelles aussi, les acteurs institutionnels, à modifier un peu leurs pratiques et leur manière de faire, et surtout de percevoir le partenaire avec qui ils travaillent. Donc c'est là aussi tout l'intérêt de cette chose-là, de cette manière de faire. Alors ça n'a pas été simple. Enfin, sur le dispositif Art 13, ça a été plutôt simple. Mais quand même, ça a été, on a eu un peu de mal à trouver, pardon. On a eu un peu de mal à compléter parce qu'il manquait toujours un peu d'argent, donc à provoquer un peu des changements dans l'esprit d'autres institutions partenaires de la politique publique, de la politique culturelle ou autre. Donc ça, c'était un peu complexe. Mais c'était un dispositif qui a permis, parce que le Conseil général était moteur dans le processus et que c'était important qu'un acteur public soit... soit, qu'est-ce qu'il y a, je parle pas là où il faut, c'est ça?
D'une part, et puis d'autre part, je voudrais laisser, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, trois mots pour conclure à Eric, et puis ensuite on fera un dernier tour de table sur une question que je vous réserve. Eric, très rapidement, deux mots.
Ben, c'était une expérimentation. Ce qui compte maintenant, c'est de voir comment on arrive à pérenniser et à poursuivre dans les années qui viennent, ce genre de projet qui, pour nous, est très structurant.
Eh bien, justement, c'était la question que j'allais vous poser. C'est finalement, qu'est-ce qu'il conviendrait si ce projet se pérennise, et on peut le souhaiter, s'il y a d'autres nouvelles éditions, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ce projet, les uns et les autres? Eric
Nous, c'est des détails de... Enfin, sur le principe, il y a quand même une chose qui s'est créée qui est phénoménale, quoi. Donc... Alors, il y a toujours eu des petites choses qui ont moins bien marché. Nous, on avait deux classes de collège, c'était des sixièmes, c'était pas facile. Enfin, c'est des détails, quoi.
Des détails. Vincent, après, peut-être, qu'est-ce qu'il faudrait changer s'il y avait une nouvelle...
On n'a pas encore tout à fait le bilan. Nous, on est la création sera pour novembre 2013 et on est vraiment dans la production encore de la création, et on a, je crois, pas assez de recul pour à part des petits détails logistiques pour dire ça.
Vincent, que j'appelais Mathieu, ou Mathieu que j'appelais Vincent, pardon. Cédric Hardy.
Alors pour le Conseil général, évidemment, ça interroge tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de ces ateliers résidences? Qu'est-ce qu'on fait de l'investissement de 4 ans de travail avec des partenaires sur le terrain comme ça qui se sont mouillés, j'irais presque jusqu'à dire corps et âme, pour que ça puisse prendre corps et voir le jour. Alors, reconduire comme ça des ateliers résidences territoire, je sais pas. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a pu isoler des logiques d'une part, et construire et surtout sceller des savoir-faire, si je puis dire. Les partenaires associatifs qu'on a autour de la table, c'est des gens qui avaient déjà une grosse compétence en termes de médiation culturelle et qui ont pu l'affirmer sur d'autres terrains. Du coup, l'idée, c'est comment nous, on va pouvoir capitaliser cette expérience-là et du coup, la resservir d'une autre manière dans les mois qui viennent. Alors, il y a ça. La notion de la formation, je vais être un peu long, mais ça, c'est le point, à mon avis, le plus important sur lequel il faudra prendre du temps.
Faudrait quand même le dire un peu vite.
Et du coup, aussi réinterroger l'institution sur la question de la transversalité de l'accompagnement de ce type de projet. Voilà.
Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Prochain rendez-vous, seconde émission spéciale dans la thématique des mondes de Rorée, c'est vendredi 5 à 11h, sur le parcours de création des mondes de Rorée, et en particulier, le partage de responsabilités dans la création sonore entre les trois protagonistes de cette histoire, dont vous n'avez entendu qu'un seul aujourd'hui, Lionel, Mélisette et Troy, une émission animée par Emmanuel Moreira. Et rendez-vous, bien sûr, pour le concert, c'est vendredi 5 avril à 18h30, 20h30 et 22h30. C'est à la cartonnerie à la Friche Label de Mai, dans le cadre du festival Les Musiques 2013. À la technique, c'était Sébastien Gély. Dans quelques secondes, la suite des programmes de La Grenouille avec Radiolab, une émission de Radio Campus France dans la série Univox sur la gestion financière des universités. Ciao, ciao.